En compagnie de Daniel Riolo, de Jonathan McCarty. Et elles sont là, nos drôles de dames. Bonsoir, Simone Rovera.
Ciao, buonasera, bonsoir.
Ça va, Simone Rovera?
Très bien.
Alors qu'il y a vécu un gros match hein, ce soir également. Il y a eu 3-3 entre la Roma et l'Atalanta. On va y revenir dans quelques instants. Avec notamment un but absolument somptueux de Javier Pastore. Fred Hermel magnifique. Également est avec nous. Salut Fredo.
Hola chicos.
Ça va Fredo?
Oh bah très bien.
Tout se passe bien?
Tout se passe bien, il fait un temps magnifique à Madrid, la vie est belle, les Français arrêtent pas de marquer des buts, bah, tout va bien.
Ah, et ton avis tranché d'ailleurs,
je tease un petit peu.
T'as raison.
Bah, c'est marrant quand même comment on pouvait anticiper à 10 km l'avis tranché de Fred Hermel.
Bah, et c'est simple.
Il y a un Français qui remue la queue en Liga, bim, Fred Hermel.
Il y a la preuve, il te dit les Français, il y en a d'autres.
Et ceux qui défendent très bien, comme Lucas Hernandez, et ceux qui mettent le feu au Wanda Metropolitano, comme Thomas Lemar.
Et Griezmann aussi.
Ah oui, bien sûr. Non, mais ça, parce que là, je vais parler des buteurs, mais on aurait pu parler aussi des défenseurs et tout ça.
Ce sera l'avis tranché de Fred Hermel dans quelques instants.
Il est revenu en forme, hein, Daniel Riolo, hein, c'est parfait. Hein, je veux dire, on est bien, la vie est belle. On dirait pas que tu rentres de vacances, mon ami. Hein,
oh là là. Je sais pas, t'as fait quoi, toi? T'es parti un peu quand même?
Ah bien sûr, je suis allé en Grèce.
Tu as adoré les miches?
Ben je suis allé en Grèce, à Athènes, enfin, et j'ai adoré ça, ce pays. Athènes, j'ai adoré ces gens. Non, pas Mykonos. J'attends la grosse blague. Je suis allé en Grèce pour des vacances un peu culturelles et j'ai adoré.
Mais t'as pas fait que te poser à Athènes quand même?
Je suis resté une semaine culturelle à Athènes, ensuite je suis allé.
Ça mérite 24 heures, pas plus, Fred, qu'est-ce que tu fous?
Pour toi, quand on ne visite que les endroits touristiques, mais moi je vais aussi vers la gastronomie là-bas. Et je peux te dire qu'on peut rester des semaines.
Tu vas dans les Cyclades, tu la goûteras bien mieux que dans la capitale.
Ce qui est génial avec Daniel, c'est que non seulement il critique mes avis tranchés, mais il critique même mes goûts de vacances.
C'est parce que visiblement tu les as ratés.
Mais non, je les ai pas ratés.
Mais si. J'aurais été nettement meilleur si tu m'avais consulté.
Daniel,
c'est un pays que je connais très bien.
Bah attends, il en revient. Va pas lui flinguer direct. Et là, il est bien, là.
Mais je lui en veux de pas m'avoir consulté. Je connais ce pays très très bien. Jamais de la vie.
Je savais pas. J'aurais dit l'Italie. Mais j'ai passé une semaine à Athènes.
Jamais de la vie.
Mais c'est, les filles sont belles, mais les gens sont magnifiques et
c'est un pays extraordinaire que je connais très bien, mais tu restes pas une semaine à Athènes. T'as raté.
Rarement, alors que l'Athletic Bilbao vient de marquer le but 1-0 contre Huesca, 47e minute, rarement était aussi bien reçu dans un pays qu'en Grèce. Voilà.
Il connaissait Fred Hermel là-bas en Grèce?
Non, mais moi c'est dans les pays où on me connaît pas. Ah, ben si, bon.
Comment dirait Hermelis? Hermelos.
J'ai dû faire 2-3 petites photos avec des supporters espagnols, bien entendu.
Que l'after, on le sait, par notamment le biais du compte Twitter des expats, on est écouté dans le monde entier, mais alors, franchement, c'est touchant de voir que tu peux voyager même loin, comme c'était le cas aux États-Unis cet été, et de voir des mecs qui écoutent l'after là-bas. J'en ai rencontré quelques-uns, notamment à Los Angeles. C'est assez touchant.
Ah, t'es à Los Angeles. Mais c'est nul, pourquoi t'es pas à New York?
Je suis déjà allé par ailleurs.
C'est pas nul, Los Angeles, mon pote. Tu vas faire des soirées au Château Marmont, tu rentres. C'est cool, Los Angeles.
D'abord, je n'ai pas fait que ça.
Non, mais là, il faut qu'il ramène sa science.
Je parlais juste des amis de l'after qui nous écoutent et qui sont loin, et ça me donne l'occasion de les saluer, parce que je sais qu'ils écoutent, notamment en podcast, et donc les
non mais à des heures simples, c'est des types qui sont le bout de la terre.
Mais
c'est un autre qui revient de vacances ce
soir,
on l'a pas encore salué. Tiens, juste vous dire, tout à l'heure, Salim Bangali sera avec nous pour revenir notamment sur la lourde défaite de Manchester United face à Tottenham à domicile ce soir. Salim sera donc là avec nous dans quelques instants, et lui aussi, il est de retour de vacances, c'est David Lortolari.
Allô, point 2.
Salut.
Est-ce que tu as mieux réussi tes vacances que Fred Hermel, toi?
Maintenant que Fred Hermel a fait son avis tranché, je vais pas avoir du temps pour
quoi,
le mien, c'est
bien. T'es allé où?
L'Écosse, moi.
Ah, bien, bien, bon choix.
T'as été où en Écosse? Non, attends, t'as été où en Écosse? Putain, en été,
mais... Ah bah non, mais là,
t'as été où? Tu vois bien qu'il a pas une peau à aimer le soleil, David Lorto.
T'as été où? Islay, Island, Speyside?
Glasgow.
Ah, et t'as pas voyagé un petit peu?
J'ai pas pu parce
j'espère
que c'était
que t'as
aussi
bu
pour
whisky
le boulot.
Alors au moins. Non mais t'es parti pour le boulot, dis la vérité, c'était pas des vacances.
Ouais, c'était des semi-vacances, c'était les championnats d'Europe de différentes disciplines pour la première fois cette année, comme vous le savez.
Non, c'est vrai, je te jure.
Donc c'était lié au boulot.
Et l'ortho est original.
T'as même pas été visité de trois distilleries quand même, attends.
Si, bien sûr.
Mais toi, en fait, c'est le cul et l'alcool. Non mais on va résumer, je veux dire. Il y a un dictionnaire, pardon, il y a un dictionnaire quand même. Je vais pas, tu vois, je vais quand même. Non mais voilà, après je sais pas si tu mélanges les droits.
Désolé d'être épicurien, mon ami.
Non mais vas-y, épicure, tant que tu veux, y a pas de souci. On va commencer par toi, mon Fredo. Petit tour d'Espagne, mon Fredo. Et on va commencer, tiens, par ton avis tranché, mon Fred.
Caca, frein de derrière, tu penses trop. Caca, tu es nul. Caca, tu es nul.
Oh putain, je l'aime bien celui-là.
Ah bah c'est mythique, et il y a le t-shirt qui est fait bientôt.
Non, pourquoi bientôt? Il est là déjà.
Il est là, il est prêt.
Attends,
c'est
on l'a fait gagner déjà. C'est Jérôme Thomas qui les a ramenés chez lui. Il a oublié de nous les rendre, mais on vous les fait gagner les t-shirts de l'after, bien entendu. Alors les buts de la Liga ce week-end, notamment, mon Fredo, ils avaient l'accent français. Et toi, tu penses que ça va continuer, que la Liga va se décliner en français cette saison?
Oui, parce qu'on aura l'occasion de parler des défenseurs et d'autres joueurs, mais c'est vrai que c'est quand même assez intéressant de voir que ce week-end, les trois grosses écuries espagnoles que sont l'Atlético, le Barça et le Real ont vu comme buteurs trois Français, un de chaque côté. Ce n'est pas anecdotique. Voilà, mon avis tranché, c'était pas simplement une constatation, c'est que je pense que ce n'est pas du tout anecdotique et que ces trois joueurs-là vont énormément se faire remarquer, vont beaucoup inscrire de buts cette saison pour des raisons totalement différentes. Commençons par le premier qui a joué, c'était samedi soir, c'est Ousmane Dembélé. Rappelez-vous, Ousmane Dembélé, l'an dernier, il a eu quasiment une saison blanche parce qu'il a été blessé pendant 4 mois. C'est vrai que cet été, il était un peu inquiet parce qu'il y a eu ce transfert de Malcolm. Il est allé voir le coach en disant, mais moi, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe avec moi? À un moment, il y a eu des rumeurs comme quoi le Barça pouvait même le prêter. Lui, il était pas très content. Et il se trouve que Ousmane Dembélé, il a montré beaucoup de caractère et il a profité de tous les matchs. Il y a eu 3 matchs officiels jusqu'ici, 2 de Liga et le premier la Super Coupe d'Europe. Et ben Ousmane Dembélé avec ses buts a offert la Coupe d'Europe, la Super Coupe d'Europe contre Séville au Barça et la victoire à Valladolid sur un terrain horrible. Enfin la victoire à Valladolid 1-0 ce samedi. Et pourquoi? Parce que Ousmane Dembélé il va continuer. Et il va s'imposer au Barça parce que le mec, c'est un champion du monde. Et lui, on a vraiment senti qu'il arrivait avec un autre statut, avec une autre dimension, et que il a décidé qu'il avait atteint quelque chose de nouveau, qu'il avait une autre personnalité, et qu'il était le temps qui s'impose. C'était le moment de s'imposer au Barça. Donc il est revenu en gros gonflé, quoi, gonflé de la Coupe du Monde. Et en plus, comme ça marche tout de suite. Ben, j'ai l'impression que Ousmane Dembélé va continuer à marquer du côté du Barça. Antoine Griezmann, c'est pas exactement la même situation. Griezmann était déjà une star avant la Coupe du Monde. Et Griezmann, avant la Coupe du Monde, il avait déjà dépassé ce problème de ne pas gagner un titre parce qu'il avait remporté la Ligue Europa en marquant 2 buts en finale contre l'OM. Et on sentait qu'il était en train de passer un cap à ce niveau-là, que la frustration de ne jamais gagner de titre était déjà dépassée. Alors en plus, comme champion du monde, c'est encore mieux. Puis ce week-end, c'est un homme heureux parce qu'il se rend compte qu'il a pris la bonne décision, c'est-à-dire de rester à l'Atlético. Le public l'a applaudi. Il faisait des sauts de cabri quand il y a eu une petite fête après le match contre le Rayo Vallecano avec but de Griezmann et c'est lui qui donne la victoire. Ce même Griezmann qui avait donné le but de Légué, enfin le but du 1 partout à Valence lundi dans une passe extraordinaire à Correa. Griezmann sautait comme un cabri. On sentait qu'il était heureux d'être là pour des raisons professionnelles, pour des raisons personnelles. Il n'y a pas de raison que ça continue pas. Et l'autre, c'est Karim Benzema, bien entendu, auteur d'un doublé avec le Real pour la victoire 4-1 hier soir à Gérone. Bah, Benzema, on se demandait si Sancho Panza allait rester Sancho Panza avec le départ de Don Quichotte. Et ben on se rend compte que Sancho Panza est un peu plus que Sancho Panza. Il est en train de prendre une nouvelle dimension au Real. Il n'y a plus Cristiano, il n'est plus lieutenant, il est aussi un protagoniste, il a décidé de marquer des buts et en plus ça se partage les buts. Ramos marque le premier sur penalty, après il laisse à Benzema qui marque, il y a un centre de Bale pour Benzema. Voilà, il y a une autre, on aura souvent l'occasion d'en reparler, une nouvelle distribution des rôles du côté du Real et Benzema a décidé d'avoir un rôle de buteur plus que d'assistant. Voilà pourquoi je pense que ces trois
Français... J'aime bien
Sancho
Panza, mais tu pourrais me laisser...
Je termine ma phrase, simplement pour la jolie phrase. C'est pourquoi j'ai l'impression que les trois Français hyper importants ce week-end, trois buteurs décisifs pour les trois gros clubs d'Espagne, ne vont pas s'arrêter là et que ce sera une constante cette saison.
Oui, non, mais c'est fort possible. C'est en tout cas que des
bons
joueurs.
Pour des raisons différentes, tous les trois.
De toute façon, c'est que des bons joueurs. Donc après tout, il y a pas de raison qu'ils soient pas bons. Mais c'est bien hein, Sancho Panza, machin, tout ça. Mais tu pourrais me garder mon historique Scottie Pippen, Michael Jordan.
Bah oui, mais pendant 9 ans, c'était ça. Sauf qu'aujourd'hui, Cristiano Ronaldo n'est plus là.
Non, mais je sais pas.
Et dans l'historique Scottie Pippen, quand Jordan prend sa retraite, il devient leader des Bulls.
Il a du mal,
Scottie
Pippen. Il a du mal. C'est vrai. Donc on verra ce qui va se passer là. On verra. Mais en tout cas là, c'est bon. Après, ce n'est que le début de saison. Mais en tout cas, de toute façon, ce ne sont que des bons joueurs, les Français qui sont en Liga. En tout cas, ceux dont nous a parlé Fred. Donc il n'y a pas de raison de pas être d'accord avec son avis. Ce sont des joueurs clés. Et à la limite, j'ai ceux de l'Atlético. Je ne sais pas ce qui est en train de se passer à l'Atlético. Là, le fait que Griezmann soit resté,
pour moi, c'est le favori l'Atlético.
Voilà, c'est ça. Il y a une forme de dynamique autour de ce club. Là, je sais pas, je trouve ça assez intéressant à suivre.
Ils ont fait un beau mercato.
Tiens, on va écouter, on va écouter Lucas Hernandez qui était l'invité de Team Dugas cet après-midi avec Christophe Dugarry et Jean-Louis Tour. Et pour lui, bah, Griezmann, il est carrément le favori du prochain Ballon d'Or. Écoutez-le.
Bah oui.
Ouais, bien sûr. Je pense que c'est un très grand joueur. Ça fait déjà quelques années qu'il le montre. Je crois qu'il y a 2-3 ans, il était dans les 3 meilleurs et ouais. Il n'a pas eu, bah, parce qu'il a perdu ses finales face à en Ligue des Champions et après il a perdu cette finale de l'Euro et ils l'ont donné à Cristiano. Maintenant, je pense que cette année, avec tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a gagné et tout ce qu'il a apporté dans son club et dans sa sélection, je pense que c'est un candidat numéro 1 pour gagner ce Ballon d'Or.
Ah, Lucas Hernandez hein, sur son coéquipier donc Antoine Griezmann. Tiens, tu parlais des buteurs français du week-end. C'est vrai que jusqu'à soir, avec le but de Griezmann, Dembélé, le doublé de Benzema, et alors on peut même rajouter en francophone Elzar qui a claqué un doublé avec Leganés. Sur les 15 buts qui étaient marqués en Liga, il y avait 6 buts francophones. Il n'y a pas eu beaucoup de buts d'ailleurs hein, jusqu'à ce soir.
Non, bah pour une raison très simple, c'est que cette Liga me semble encore plus compétitive que la saison dernière. Vous allez dire que j'en rajoute, mais il y a vraiment de très très belles équipes. Le problème, c'est que je suis obligé de me lâcher, de me faire violence, parce que c'est vrai que sur les 20 derniers titres internationaux, c'est-à-dire Ligue des Champions, Ligue Europa, Super Coupe d'Europe et Mondial des clubs, les clubs espagnols ont gagné 19 sur 20. Ouais. Donc c'est vrai que je suis obligé de sortir un petit peu de ma réserve et de m'exciter un peu au-delà de mes capacités. Mais c'est vrai qu'à ce niveau-là, non, mais il y a une bonne dynamique. Et c'est vrai que hier, Gérone, je sais pas si vous avez regardé le match de Gérone.
Ils étaient mis à 0 le Real hier.
Hein, ouais, et Gérone, c'est vachement bien. Mais est-ce que le Real, on a quand même des joueurs assez motivés pour montrer qu'après le départ de Cristiano,
c'est toujours City, les mêmes propriétaires.
Ils ont perdu leur entraîneur, mais c'est la succursale quoi. Mais pour revenir sur l'Atlético, parce que je pense que Daniel a tout à fait raison. Moi, je pense que c'est l'équipe qui l'a mieux armée cette saison, parce que pour moi, ils ont réussi les deux meilleurs transferts de l'été, c'est-à-dire conserver Griezmann et conserver Oblak. On oublie souvent Oblak, mais il a failli partir. Garder ces deux-là. Faire venir Rodri, faire venir Jenson Martins, mon cher Nicolas, c'est un bon joueur quand même, Jenson Martins.
On va voir combien il va coûter, mais c'est un bon joueur, ouais.
Bah, pourquoi il va, mais il est venu gratuit.
Oui, mais ça va être décidé peut-être par la justice, mais c'est pas
ah oui, encore, ah oui, à ce niveau-là, tu veux dire. Oui, d'accord.
Non, mais en revanche, même s'il paye 20 millions, c'est un vrai bon joueur. Oui,
c'est un super joueur. Et puis vous avez surtout Thomas Lemar. Alors on aura l'occasion d'en reparler de lui. Mais moi je me souviens que Griezmann a mis 6 mois avant d'être titulaire à l'Atlético. Thomas Lemar, il est titulaire au bout de 15 jours.
Mais surtout, presque intéressant, c'est qu'il a déjà changé. On a déjà l'impression que c'est plus vraiment le même joueur.
Libéré. Là aussi, je pense qu'il y a l'effet Coupe du Monde.
Non mais il y a pas que ça, c'est qu'on a l'impression qu'il a pris.
Ben justement, la Coupe du Monde aurait pu un peu le geler étant donné qu'il a pas joué et il arrive.
C'est pas le même. Il arrive, c'est l'impression qu'il tire à l'épaule. Au duel, il tire enfin à l'épaule.
Ouais, c'est
alors
ça,
qu'avant,
c'est
il est au moins contact.
Comme si c'était durci d'un coup. Quoi.
Ah ben c'est ça, ouais.
Alors après, il a la préparation. Il a fait la préparation de l'Atlético aussi.
En revenant en avance même, c'est ça.
Oui, bah là aussi, il est très intelligent. Il est revenu un petit peu plus tôt que ce qui était demandé par son nouveau club. Ça, c'est déjà un message très intéressant que t'envoies Simeone.
Mais Fred, je t'assure, je sais pas si tu l'as vu beaucoup jouer avec Monaco, mais c'est putain, c'est un tout autre joueur, vraiment.
Bah, c'est-à-dire que physiquement,
c'est ça.
Il a pris une certaine ampleur, on peut dire.
Et dans la méchanceté dans les duels
épaisseur,
aussi.
Mais de toute façon, s'il s'y met pas, l'Atlético,
ah bah, il tout
Fred a raison, Griezmann, on se rappelle au début, c'était un petit peu compliqué de se faire au rythme des entraînements, la charge de travail quotidienne. Lui, t'as l'impression qu'il est comme un poisson dans
l'eau. Non, mais moi, je trouve hallucinant que Simeone, ça n'arrive jamais qu'il fasse d'un nouveau joueur un titulaire comme ça, incontournable tout de suite. C'est dire qu'à l'entraînement, il doit vraiment le convaincre.
Tiens, tu voulais également glisser un mot sur le Betis, Fred, là. Il se passe des trucs bizarres là-bas, non?
Bah, le Betis, c'est une équipe qui, pour l'instant, n'a qu'un point sur deux matchs. Mais ça peut paraître dingue. Ils ont du mal à marquer des buts. Mais c'est le plus beau football qu'on voit en Espagne en ce moment. C'était déjà le cas la saison dernière. Et là, ça sera intéressant parce que c'est une équipe qu'on pourra voir en Ligue Europa.
Il y a le derby, je crois, la semaine prochaine d'ailleurs.
Ouais, il y a le derby, au Betis contre Séville, si j'ai pas de bêtises. Et donc, on est face à une équipe qui joue un football merveilleux, qui ont fait une recrue extraordinaire. Inoui, vous savez, le japonais qui est à Eibar.
Oui.
Ah bah lui c'est un super joueur hein, donc on l'a vu pendant la Coupe du Monde notamment.
Ouais. Sur ce qu'on a vu c'était pas mal. Ouais.
Et puis nous il avait signé avant la Coupe du Monde et c'est franchement ce Betis Séville parfois les résultats sont un petit peu injustes mais voilà c'est pas une équipe qui est très pratique mais c'est une équipe très belle à voir et j'ai hâte de la voir justement en Europe parce que je pense que c'est un football qui représente bien l'idée qu'on a ici en Espagne.
Tiens et très vite également Fredo il y a une menace de grève également en Liga.
Ah oui, alors on aura peut-être l'occasion.
Ça tient toujours ça.
Oui, parce que en fait, Javier Tebas, le président de la Liga, a signé un accord pour qu'il y ait un ou deux matchs cette saison, un match qui sera de Liga qui serait délocalisé aux États-Unis. Alors moi, je vais prendre la défense de Tebas. Les joueurs, ils me font marrer. Ils veulent faire une grève parce qu'ils veulent pas aller jouer aux États-Unis. Bon, c'est un match, etc. Après, les mecs, dès qu'ils ont deux jours de vacances, ils vont à l'autre bout de la terre. Hein, mais pour aller jouer un match comme ça, mais il faut comprendre une chose. La Liga est en danger aujourd'hui, comme tous les championnats européens, face à la toute puissance financière de la Première Ligue. Et il y a un président, et d'ailleurs Simone et toi Daniel qui connais bien l'Italie, les Italiens voulaient que Tebas soit le président du calcio aussi, parce que Tebas il a compris que s'il n'y avait pas une attitude agressive au niveau financier dans le monde et au niveau du marketing pour la promotion de la Liga, bah la Liga deviendrait comme tous les autres un sous-fifre de la Première Ligue. Mmh. Et donc Tebas a par exemple, ils ont trouvé un accord avec Facebook pour diffuser les matchs de la Liga en Asie. Par exemple, il veut qu'il y ait des matchs de la Liga qui se jouent aux États-Unis pour attirer de nouveaux sponsors. C'est vrai que c'est pas idéal, mais face aux droits télé, à la superpuissance financière de la Première Ligue qui s'était encore vu cet été dans les marchés de transfert. Okay. Tebas a raison. Et les joueurs, ils me semblent un peu hypocrites parce que s'ils sont aussi bien payés, c'est parce que il y a des sponsors.
T'aurais presque pu faire ton avis tranché là-dessus, mon Fredo, tiens. C'est vrai que c'est intéressant comme
fait. Oui, mais on aura l'occasion de reparler quand tu auras la grève.
Globalement, quoi.
Ouais. Fred, on file. Tu restes avec nous. On revient dans quelques instants. On va continuer de faire notre tour d'Europe. David Lortolari se prépare. Simone Rovira est avec nous. On sera également avec Nicolas Paolorsi parce que ça bouge à Bordeaux sur le dossier de l'entraîneur. Toutes les infos.
C'est pas que ça bouge, c'est que c'est mort pour Henri.
Voilà. Et ben, toutes les infos, c'est juste après ça avec Nicolas. De Daniel Riolo, de Jonathan Macardy, les drôles de dames sont là également. Fred Hermel qui vient de nous faire son avis.
De Yuri Berchiche, alerte PSG 2-0 pour l'Athletic Club de Bilbao contre Huesca. But de Yuri Berchiche.
Du PSG, Marc, Lucas qui est totalement.
Bah oui, c'est pour ça que je le dis.
Pastore, Berchiche, c'est la soirée des ex.
Ouais. On l'a évoqué
des fois, l'ex, c'est bien.
On l'a évoqué tout à l'heure.
Ça dépend.
Avec Louis Amar, Fredo, Guedes, c'est officiel à Valence.
Fred et Jonathan qui arrive avec son allure d'expert. Non. Genre le mec, je sais tout. Fred, tu peux lui dire que.
Jamais couvert.
Mais si t'avais l'expérience de Fred, tu saurais que parfois.
On ne crache pas, ça dépend.
Parfois, un vieux fond de casserole, des fois, tu fais une bonne soupe.
Bien sûr, exactement.
Il faut qu'on arrête, là, parce que ça va aller trop loin, là.
Ouais, je pense qu'on va aller s'en rendre compte. Ça va déraper, on va finir en Allemagne, retrouver notre David Lortolari qui est de retour ce soir.
Et oui, Guedes, ça va se faire. Hein.
Non, c'est fait, c'est officiel.
Bah, 40 millions. Mais Sophie, c'est, attends, Valence l'annonce officielle.
Ouais, sur un compte Twitter.
Ah, le mec à l'instant, est là, excuse-moi. Excuse-moi, j'ai un œil sur Athletic, Huesca pour vous donner ce qu'on direct, hein. C'est bon, hein.
Estamos charreando.
Ah, ça y est. Quelle erreur tu viens de commettre. Oh, putain, c'est fou. Un mec de ton niveau et me faire une remarque comme ça à l'antenne, putain.
Vrai,
comme je suis hyper rancunier, quoi. Donc, ouais, enfin, il y a 14 secondes. Excuse-moi. Il y a Guedes, c'est 17 secondes. Excusez-moi. Guedes officiel sur le compte de Valence, c'était il y a 25 secondes.
Non.
Ah, non.
Excuse-moi, là, il dit 25 secondes.
En fait, tu devrais pas continuer sur le sujet. Passe à autre chose, mec.
Là. Tu vois, non, mais là, ils disent, voilà, sur le compte, bien dit de bien plus chez toi.
Chez ta page, c'est juste ça. Fais F5 pour voir, tu vois, on en reparle après. T'as un bouton là-haut, là, F5.
Ah, bah ouais, 28 minutes.
Voilà, merci, Fredo. Allez, bisous.
Sinon, on a les Français en Bundesliga, messieurs, si vous voulez. Aussi,
oh, pardon, excusez-nous, monsieur Lortolari. David, c'est chaud pour ton avis tranché ou pas?
Bien sûr.
Jingle. Timo Werner. David?
Bah, je vous propose de regarder la Coupe du Monde. Chapeau 1.
Rien pour cette remarque.
La prochaine Muller, Coupe du Monde, oh là là.
T'es là mon David. Alors ouais, ton avis tranché, il concerne alors la VAR. Voilà qui va faire plaisir à Daniel Riolo notamment. Alors toi tu dis oui.
Oh non, on va pas reparler de ça encore.
Non, alors attends, fini, si, mais c'est important d'ailleurs parce que c'est l'actu là.
C'est entériné, on en parle plus.
On recontextualise. Toi tu dis oui. Ils se sont passés des choses ce week-end visiblement.
Bah oui, sinon on n'en parlerait pas.
Vas-y, alors déroule.
Non, alors je veux juste préciser pour que Daniel ne jubile pas tout de suite que je retourne pas ma veste. La saison dernière eu l'occasion d'intervenir une fois sur ce sujet, en particulier dans un habit tranché.
Dans la vie, on peut retourner sa veste sans que ce soit une honte. Hein, changer d'avis,
c'est absolument. Je suis d'accord avec toi, Daniel, mais c'est pour dire c'est que je change pas d'avis par rapport à ce que j'ai dit il y a 6 mois. Simplement, il y avait ces derniers jours, il y avait à Cologne une espèce de grand messe des jeux vidéo, du e-sport, etc. Et il semblerait que les arbitres qui sont terrés dans une cave à Cologne pour faire le vidéo arbitrage de la Bundesliga soit un peu trompé d'activité ce week-end. Il y avait deux matchs importants parmi les matchs de cette première journée, en particulier le match de reprise avec le Bayern qui accueillait Hoffenheim. Et alors je vous décris rapidement ce qui s'est passé, parce que le cirque a commencé dès ce premier match en fait en ce qui concerne cette assistance vidéo. Penalty inexistant ou quasi inexistant, on va dire en tout cas très généreux sur Franck Ribéry qui entre dans la surface, taclé, pas de contact, l'arbitre siffle penalty. Ok, l'arbitrage vidéo, l'assistant vidéo décide de ne pas intervenir. Bon, c'est un arbitre expérimenté, il décide de pas intervenir. Ok, le penalty donc quasi inexistant est validé. Frappe de Robert Lewandowski.
Arrêté.
Franck, oui, arrêté. Arjen Robben est entré dans la surface 2-3 mètres dans la surface avant que Lewandowski ne frappe le ballon. On s'en aperçoit avec l'arbitrage vidéo, intervention de l'arbitre vidéo qui fait retirer le penalty.
Robben avait marqué, hein.
Robben avait marqué. Donc, faire retirer le penalty, voilà, c'est l'intervention de l'arbitrage vidéo. Il n'était pas intervenu sur le fait d'accorder le penalty, il intervient là. Ok, on retire le penalty. Lewandowski le marque, ça marche. Première discussion importante à propos de ça. Ensuite, derrière, il y a un but de Leon Goretzka, qui est donc pour le Bayern en fin de match, effleuré du coude par Thomas Müller, le but était valable, Müller avait le coude collé le long du corps, le ballon est à peine dévié, le but était de l'avis général valable, il est refusé par une intervention de l'arbitrage vidéo. Donc déjà, dès vendredi soir, premier match de Bundesliga, grosse complexité, grosse discussion autour de ce match. Et alors, ça s'est poursuivi le lendemain, avec alors là un cirque indescriptible dans le match entre Schalke et Wolfsburg, ça s'est passé à Wolfsburg. Carton jaune transformé en carton rouge, ok, pourquoi pas. L'inverse aussi, carton rouge transformé en carton jaune. L'arbitre qui se trompe de carton, pas d'intervention de l'arbitrage vidéo. Enfin, ça a été ce match-là, une espèce d'énorme cafouillage. La dernière demi-heure a été... on n'a pas joué au foot, en fait. Et d'ailleurs, vous pensez bien que les entraîneurs des clubs concernés, et ceux qui ont perdu en particulier, se sont immédiatement énervés contre cet arbitrage vidéo. Ce qui se passe en fait en Allemagne actuellement, puisque ça fait un an maintenant qu'on expérimente cet arbitrage vidéo, cette assistance vidéo, c'est que on ne sait pas et on ne comprend pas, il n'y a pas de cap clair fixé, on ne sait pas pourquoi et quand l'arbitre assistant vidéo intervient ou n'intervient pas. Et c'est ce que le président du Bayern Rummenigge a souligné ce week-end en disant ça serait bien d'avoir une professionnalisation dans l'intervention de l'arbitrage vidéo, parce que là c'est un espèce de flou.
Professionnalisation de la machine.
Oui, voilà, mais c'est-à-dire...
C'est pas mal, c'est pas mal.
Au moins qu'on respecte la promesse de départ qui était d'intervenir dans des cas très très spécifiques, très particuliers, l'expulsion d'un joueur, effectivement, l'attribution ou non d'un penalty et la validation ou non d'un but, si le ballon entre ou non. Ce qui se passe en ce moment, c'est qu'on est retombé dans les travers des premiers mois de la Bundesliga, qui s'était calmé l'année dernière en fin de saison, c'est que ça intervient à tort et à travers, on sait pas pourquoi, on sait pas comment, et il n'y a aucune homogénéité entre les différentes rencontres. Du coup, c'était évidemment le principal sujet de débat pendant le week-end. Ça a fait beaucoup beaucoup de buzz en Allemagne et c'était le thème numéro un sur lequel je voulais m'arrêter ce soir.
Que 600 vidéos, ça devait éviter tous les débats sur l'arbitrage. Je fais chier quand même. Hein.
C'est pour ça que ma position du soir, et c'est incroyable, c'est jusqu'à nouvel ordre, c'est de dire il faut que l'intervention soit régie par l'arbitre central sur le terrain. C'est à lui, s'il a un doute, de faire appel éventuellement à l'assistant.
C'est selon les textes déjà, David. Hein. C'est ce qui est préconisé en principe.
Mais, on est bien d'accord. Ouais. Mais ok, c'est une palissade, cet avis tranché. Mais ce que je veux dire, c'est que en pratique, on est reparti dans une espèce de bazar. C'est que de temps en temps, c'est l'arbitre assistant. Et ce sont pas des arbitres de première, qui sont tombés de la dernière pluie. Hein. C'est des arbitres très expérimentés qu'on connaît bien dans le paysage de
Bundesliga depuis des années, qui sont dans la cave à Cologne, okay, et qui interviennent, alors parfois sur appel de l'arbitre central et parfois de leur propre gré. Et ça, ça correspond pas à la promesse de départ. Et du coup, c'est un vaste flou artistique qui a été totalement ingérable dans cette première journée.
Vous avez envie de réagir là-dessus, les gars? Bah, toi, il y a aussi l'avant en Italie.
Sur l'Espagne aussi. Ça tombe bien, parce qu'aujourd'hui, il y a eu une déclaration plutôt intéressante d'un arbitre italien, qui est Irati, qui était l'arbitre vidéo pendant la finale de la Coupe du Monde, qui a dit, moi, au début, je pensais que la technologie aurait changé en pire le football, mais j'ai changé d'avis. La seule chose qu'il faut trouver, c'est une discrétionnalité et avoir une homogénéité sur les décisions et quand l'utiliser. Et on travaille sur ça.
Oui, ça donc c'est ce qu'on disait déjà avant qu'il y ait la VAR.
Oui,
donc, finalement, c'est bien ce que je dis depuis toujours.
Fred,
ça ne change rien. En fait, ça ne change rien.
Fred, sont conquis quand même
sur l'Espagne. Tu ne pourrais jamais changer ça, en fait.
Fred, vas-y.
Moi, j'ai décidé qu'en fait, d'ailleurs, moi, je pense qu'il faut arrêter de débattre de ça parce que c'est relou, ça nous fait perdre du temps. Exactement comme on le faisait pas sur les arbitres avant, il faut arrêter. Moi, je souhaite que ce soit la dernière fois. Le sujet ne m'intéresse plus. Je l'ai totalement intégré. J'ai constaté en un an de ce que j'ai pu voir un peu, l'Allemagne l'a utilisé, l'Italie, et ça fait encore débat. Il y a une semaine, il y avait deux pages dans un journal italien là-dessus et tout. Oui. Moi, je l'ai complètement accepté. J'ai également vu qu'effectivement, ça ne change rien du tout.
Regarde le match de Marseille à Nîmes là.
Que tout sera exactement comme avant. On en débattra toujours autant des problèmes d'arbitrage. Que tout ce que tu dis de l'homogénéité, c'est en fait, c'est qu'on revient à 20 ans en arrière sur l'arbitrage où on disait qu'il en fallait de l'homogénéité sur les décisions. Bah là, maintenant, ce sera de l'homogénéité qu'on voudra sur les mecs en cabine, mais ça ne changera rien du tout. Donc, rien. Sauf que on a un gadget de plus dans le football, c'est-à-dire un truc en plus, un élément du jeu où le mec peut regarder, le mec peut se faire appeler pour changer tout. Donc, il y a eu un truc en plus dans le foot, mais d'un point de vue de la justice de la décision sur le terrain, ça ne change et ça ne rectifie absolument rien. Ça, jamais personne me convaincra du contraire. Ça n'existe pas, c'est faux.
Fred.
On a ajouté un truc en plus dans le foot.
Pour quelqu'un qui veut plus parler de la VAR,
Fred.
C'est là, c'est comme ça.
Fred.
M'en fous, moi, en fait.
L'Espagne l'a introduit il y a deux journées. Enfin, le premier match, c'était la Supercoupe d'Europe. La VAR est intervenue. Pour l'instant, il faut quand même reconnaître que ça marche plutôt pas mal en Espagne.
Mais t'as eu deux journées.
Excuse-moi, je viens de te dire pour l'instant. Ouais. Je vais pas te dire comment ça s'est passé au bout de 38 journées, puisqu'on a joué que deux journées. Je te parle de deux journées et je te parle d'une Supercoupe d'Espagne. Et pour l'instant,
c'est...
Bon, ok, comme tu veux.
Non, mais ça s'est bien passé.
Ça vient d'être introduit en Espagne,
exactement comme ça peut bien se passer en deux journées avec des arbitres sans VAR.
C'est pour ça que je
on a l'impression que
Daniel,
le VAR rectifie
David,
un machin ou
fait
les arbitres
Daniel,
pas tout le temps.
Regarde, même en Ligue 1 ça fait, on est quoi, troisième journée, il y a déjà eu des conneries avec
Gandel. Vas-y Fred, on
passe à David choisit de parler de la VAR. Le présentateur, le directeur de cette émission demande notre avis. Moi je dis en Espagne jusqu'ici tout va bien, voilà. Donc je vais pas vous dire comment ça sera à Noël, parce qu'on n'est pas encore à Noël.
C'est factuel, quoi.
Ben voilà, on a le droit de faire du factuel.
Au Portugal, voilà. Ça fait un an que ça dure et c'est passé un truc de ouf ce week-end. C'était un match qui a été retransmis sur RMC Sport. Le système n'a plus fonctionné de communication entre l'arbitre central et la régie qui a été située à Lisbonne lors du match entre Porto et Guimarães. Entre la 15e et la 45e, ils pouvaient pas parler, ils pouvaient pas discuter. Et l'écran de contrôle sur le bord du terrain ne fonctionnait pas. Alors après, il y a un protocole qui est à suivre dans ces cas-là, c'est-à-dire que t'arbitres à l'ancienne, quoi, sans rien. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Donc il y a eu un but hors jeu entre temps et qui a pas été signalé du coup, parce qu'il y avait pas.
Ça ne change rien, on
David,
accepte cet élément-là.
Un petit mot vite fait, David, sur Kingsley Coman qui s'est fait opérer, s'est blessé ce week-end.
Il faut reconnaître que pas tant que ça, finalement.
Comment s'est blessé ce week-end,
Il faut évoquer, parce que c'est quand même une mauvaise nouvelle individuelle pour lui, c'est vrai aussi pour le club, parce qu'au Bayern, on a des ailiers qui commencent à vieillir, Ribéry 35 ans et Robben 34 ans, et Serge Gnabry, qui est arrivé d'Offenheim, qui est de retour de prêt, est un joueur qui est soumis aussi aux blessures et qui est fragile, et le quatrième ailier du Bayern, Kingsley Coman, qui retrouvait un super niveau et qui était pas loin d'être le meilleur joueur ce week-end, enfin vendredi soir avec le Bayern, se blesse à la 45e sur un tacle un peu, enfin plus que maladroit de Nico Schulz, le défenseur de Offenheim, par derrière en l'occurrence. Blessure la même que celle qu'il avait eue il y a quelques mois, rechute donc à la cheville gauche, opération, il sera absent jusqu'en décembre au moins, Kingsley Coman, et c'est dur évidemment pour lui parce que c'est l'endroit où il avait déjà été blessé et ça risque de fragiliser encore plus plus sa cheville gauche.
Et dis-moi, il y a un champion du monde qui va rester visiblement dans un club pas très en vue. Ça va être notre champion du monde le moins en vue finalement.
Benjamin Pavard.
Benjamin Pavard, oui.
Tout a changé dans sa vie et même en Allemagne, machin. Mais bon.
Mais il a plus ou moins un bon de sortie pour juin prochain. C'est ce qui était prévu déjà avant le mondial d'ailleurs.
Mais c'est loin.
Voilà, c'est ça.
C'est loin. En attendant, il fait une saison pourra avec son club.
Paraît-il que si Boateng se barre, le Bayern pourrait essayer de faire le coup là, c'est ça, David?
Bah, en tout cas, le Bayern a ouvert la porte au départ de deux joueurs dans les 3-4 jours qui restent. Juan Bernat, l'arrière gauche, le latéral gauche qui joue très peu et qui pourrait être éventuellement une bonne pioche pour un autre club européen. Et Jérôme Boateng, effectivement, mais le Bayern est assez gourmand, demande 50 millions d'euros, donc c'est difficile de trouver un acheteur pour Boateng. Mais ça pourrait éventuellement faire un jeu de chaise musicale, j'y crois pas trop, parce que Kovac n'a pas demandé de défenseur central supplémentaire.
Ok, merci David. Messieurs, Nicolas Paul Orsi est en direct avec nous dans l'After, il est du côté de Bordeaux. Bonsoir Nico.
Salut l'After, salut à tous.
Bon, Nico. Il est à Bordeaux. Pourquoi du côté de Bordeaux?
C'est vrai, tu as raison.
C'est vrai.
Gilbert en plus m'a repris là-dessus encore aujourd'hui d'ailleurs. Bah, il m'a dit c'est complètement con de dire du côté.
Mais
parce que dans le foot on l'entend.
Mais il y a pas que dans le foot, c'est comme pardon, mais c'est comme folichon, c'est pas que dans le foot.
Moi je suis d'accord avec toi Nico. Nico Vias, je suis d'accord avec toi parce que moi j'utilise dans la vie. Ah ben c'est pas folichon. Et pourquoi on n'a pas le droit d'utiliser? Moi je suis d'accord que les poncifs du pôle ça me fatigue. On a le droit d'utiliser des
expressions idiomatiques. Excusez-moi, mais à ce stade de l'émission, est-ce que l'avis d'un mec qui trouve que c'est bien de rester une semaine à Athènes et de pas foutre les pieds sur les îles compte? Moi, je me
en
demande.
En plus, je suis dans des
si
îles, je suis
fait ce choix-là.
Je suis allé guider, c'est la cathédrale orthodoxe.
T'as le temps d'y retourner en plus.
Nico,
c'est plus
intéressant. Oui, la nouvelle est tombée.
Ouais.
C'est mort pour Henri.
C'est terminé pour Thierry Henry et les Girondins de Bordeaux. C'est Sky Sport qui l'a annoncé ce soir et c'est une information qu'on est en mesure de vous confirmer.
Il y a eu un qui bosse à Sky Sport.
Ouais, c'est la chaîne pour laquelle il était consultant et il a cassé un contrat mirobolant que lui avait offert Sky Sport pour se lancer dans une carrière d'entraîneur. Il y a eu une dernière proposition bordelaise ce soir. Alors c'était une proposition qui essayait de satisfaire un petit peu plus les exigences de Thierry Henry. On rappelle, il demandait un salaire de 2 millions d'euros par an, plus des demandes logistiques et familiales assez importantes qui faisaient encore grimper la facture. Il demandait également comme garantie de signer au moins 3 ou 5 joueurs lors du mercato. Finalement, Bordeaux n'a pas pu s'aligner et Henry a donc refusé cette dernière proposition des Girondins de Bordeaux dans la soirée. C'est donc terminé. Il ne sera pas l'entraîneur des Girondins de Bordeaux et c'est un sacré gros couac pour les Bordelais. On rappelle qu'il était d'accord avec M6 la semaine dernière. C'était mardi dernier. Ça fait une semaine que
les nouveaux dirigeants, surtout Nico, qui vont arriver à Bordeaux avec ça comme casserole.
Exactement. C'est une sacrée mauvaise image pour le fonds d'investissement américain JACP. Alors, il faut quand même nuancer les exigences de Thierry Henry. À la base, il s'était mis d'accord avec M6. Et en fait, pour révéler un petit peu les détails de ce qui s'est passé, le clan de Thierry Henry s'est rendu compte que l'ancien Gunners était un petit peu seul pour prendre ce poste d'entraîneur des Girondins de Bordeaux. Et du coup, quand on n'a pas de concurrence, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de mettre un petit peu de pression sur les dirigeants et donc de faire grimper un petit peu les exigences salariales, tous les avantages qu'il peut y avoir, parce qu'on sait que derrière il y a personne. Et là où M6 était d'accord avec Thierry Henry, les dernières exigences de son agent, même Nicolas de Taverneau et Stéphane Martin dans les dernières heures ont fini par lâcher le dossier parce qu'ils voyaient qu'ils ne pouvaient plus répondre aux exigences de Thierry Henry. Mais c'est vrai que les Américains de GACP n'ont pas forcément fait l'effort, que Thierry Henry a vu de son côté qu'il n'avait pas les garanties nécessaires pour faire signer le nombre de joueurs qu'il voulait. C'est un sacré gros couac parce que ça fait quand même une semaine que Bordeaux travaille sur ce dossier, que c'était vraiment tout proche de se faire, et ça il faut le dire encore ce week-end, samedi dernier, où nous d'après les échos qu'on avait, il restait mais demi gros détails à gérer, et puis ça a basculé, et puis GACP a tardé, GACP a attendu, un petit peu comme dans le dossier avec l'attaquant Pedro, l'attaquant brésilien qu'on disait très proche de Bordeaux. Finalement il y a eu des contre-propositions mais les Américains voulaient pas mettre l'argent. C'est absolument ce qui s'est passé avec Thierry Henry, et à force de tergiverser, les trois parties, M6, GACP et le clan Henry, se sont éloignés. Du coup, c'est terminé et il va falloir très très vite se rabattre sur un plan B.
Ranieri alors, Nico?
Ouais, pour l'instant, c'est la piste la plus sérieuse qui est étudiée. Et en plus, c'est une piste qui plaît aux Américains de GACP. Mais franchement, vu ce qui se passe depuis le début de ce dossier, et même on peut englober depuis le début du mercato des Girondins de Bordeaux.
On est plus sûr de rien.
Ouais, franchement, c'est très compliqué de dire ce qui va se passer à Bordeaux. Ce qui est à peu près certain, et c'est vrai que l'équipe le confirme également ce soir, c'est que Eric Bédouet devrait pousser l'intérim jusqu'à dimanche au moins. Donc pas d'entraîneur avant le début de la semaine prochaine. Ça va être compliqué pour Bordeaux. Hein. On rappelle que jeudi il y a un barrage de Ligue Europa retour, mais c'est tellement important maintenant de décrocher une qualification en phase de poule au niveau financier quand on est un club de Ligue 1, va pas falloir passer à côté. Ça commence à être très très compliqué en coulisses du côté des Girondins de Bordeaux, et on peut même voir plus loin. C'est-à-dire que ce conflit entre M6 et GACP pourrait peut-être remettre en question la vente du club, parce qu'on rappelle,
on en est à se demander ça effectivement là.
Mais on peut se poser la question, Daniel. Alors ça c'est
parce
une M6, c'est une interprétation.
Très bien se dire, là je suis en train de vendre à une tripotée de mecs un peu bizarre.
Exactement. Alors ça c'est une interprétation très personnelle. Hein. C'est pas des informations recoupées, mais on peut se demander si M6, vu le déroulé des négociations dans le dossier Pedro, dans le dossier Henry, ne va pas se dire mais comment on va faire ? Est-ce qu'on va vraiment céder le club à ces Américains là ? C'est vrai qu'on peut se poser cette question.
Ça me rappelle quelque chose très simple avec un ancien champion du monde qui s'appelle Zinedine Zidane en 2015, en 2014 pardon. Il y avait des promesses. Je termine la phrase. Il y avait des promesses faites du côté de Bordeaux à Zidane qui était très intéressé, et les joueurs promis, finalement ils n'allaient pas venir, et donc Zidane a décidé de partir en deuxième division pour prendre le Castilla.
Le conseiller occulte entre guillemets, occulte avec des guillemets des Américains, ce qui est Varela, il me semble qu'il a été condamné par la justice espagnole pour ce qu'il a fait à Malaga.
Mais c'est quoi le rapport avec
c'est qu'il trempe dans des affaires pas nettes,
le rapport avec le fait que Henri vient pas.
Le rapport est très simple, c'est qu'il y a beaucoup de gens, comme on disait en première heure, qui tournent autour de ce club-là avec l'idée de se faire de l'argent un petit peu sous la table, de placer des agents, de placer des joueurs.
Là, d'après ce que nous dit Nicolas, il y a pas eu d'accord entre Thierry Henry et les dirigeants.
Non, mais c'est vrai que Jonathan a pas tort, parce que
pourquoi les Américains ont pas forcé non plus pour Henry, c'est parce que je pense sincèrement que Varela, ça l'arrangeait pas d'avoir dans les patins d'entraîneur qui avait déjà des idées très reçu sur ce qu'il voulait en termes de joueurs, et que ça l'arrange plus d'avoir un entraîneur plus malléable pour accepter les joueurs que lui proposera.
Et c'est vrai, t'as raison, parce que en plus Thierry Henry arrivait dans ses bagages avec Gilles Grimandi, et c'est vrai que c'était un des gros points d'interrogation du côté des Américains, c'était
parce
de se dire
ils pouvaient plus trop contrôler le business.
Exactement, c'est un business de trading de joueurs, les
nouveaux dirigeants bordelais. Eux, leur fantasme, ce sur quoi ils tripent, c'est Monaco. Hein.
Et eux, ils se disent, je veux m'en mettre plein les poches
autant que Ribolovlev. Sauf que ce qu'ils oublient,
il y a une situation fiscale à Monaco qu'ils oublient.
C'est la thune que Monaco a mis au départ.
Exactement.
Oui, et puis c'était de se dire.
Il m'enlève les mots de la
bouche. Nicolas,
il dit mieux que moi.
Nicolas, je pense que ça serait important de s'intéresser quand même à ce qu'a fait le dénommé Varela à Malaga. Et ça fera peut-être un peu dans le dos.
Ce qui serait intéressant, c'est de savoir quel est le réel rôle de ce mec-là dans cette histoire.
Nico, il en fixette un peu sur
Varela. Parce qu'il a des casseroles en Amérique, il a des casseroles dans ce dossier, Jonathan.
Disons que ça n'a rien à voir avec Bartolomé Varela, l'ancien arbitre.
Non, mais il a des casseroles de partout où il est passé, c'est tout ce que je dis.
Merci Nico, en tout cas, pour toutes ces précisions.
Salut,
salut.
Bonne soirée.
Bonne soirée. Merci beaucoup, en tout cas. Voilà. Simone.
Oui.
Bon, il te reste quelques minutes, hein, je te le cache pas, on va surtout faire de l'Italie demain. Tu nous en veux pas. Non, mais on va en faire, hein, mais regarde, putain, il va m'en coller une.
Non, mais c'est vrai, pourquoi tu lui dis ça alors qu'il reste plus d'un quart d'heure?
Parce qu'on a l'Angleterre qui nous attend, il y a Mourinho qui vient d'en prendre 3 à domicile. C'est pas arrivé depuis, c'est jamais arrivé dans cette
Simone, Cristiano marque pas, t'as pas de minutes, hein.
On aura
pas
de minutes, une minute par but de Cristiano. Des vacances à la tête de Fred Hermel, alors.
Bah, on l'a déjà fait trop longtemps, je pense.
Vas-y. Faire un spécial vacances.
Ouais, demain.
Jingle à vitranche chez Simone Rovera.
Quelle ligne que j'adore, que je lui donnerai les clés de la maison, les yeux fermés, la poussette avec ma petite. J'ai totale confiance à Giorgio Chiellini dans le terrain et dehors le terrain.
Alors toi, ton avis tranché concerne la Roma, qui a fait match nul d'ailleurs 3-3 ce soir face à l'Atalanta. Et elle concerne notamment un mec que connaît bien Fred Hermel, Monchi. Pour toi, le pari de Monchi est trop grand?
Oui, parce que son pari était plutôt clair. Il a dit cet été, si je gagne pas en 2 ans, je pars. Or, ce qu'il est en train de faire avec la Roma, c'est du bon travail. Il est en train de faire des plus-values très importantes pour le club. Il fait arriver des très bons joueurs. Il vend des joueurs de façon très intéressante. Les problèmes, c'est que pour gagner en Italie, surtout, ça suffit pas de faire arriver des bons joueurs sans donner le temps à l'entraîneur de travailler et sans avoir le temps de créer quelque chose. Déjà, la saison dernière, pour parler, qu'est-ce qu'il peut gagner ? il y a la Coupe d'Italie, il y a les championnats, il y a une Coupe d'Europe. Or, déjà, il y a eu un miracle la saison dernière pour arriver en demi-finale.
En
Ligue des Champions, je vois pas la Roma se mettre dans objectif prioritaire de gagner la Ligue des Champions.
Non, on le voit pas non plus.
La Serie A, ça reste quand même très compliqué, surtout quand tu changes énormément de joueurs, presque une équipe entière sur les deux dernières saisons, avec des top players comme Alisson, comme Salah, comme Nainggolan. Maintenant, tu perds un joueur très important dans le vestiaire et sur le terrain comme Strootman. Donc là aussi, c'est pas simple. Si l'objectif de la Roma, qui n'a plus soulevé un trophée depuis 2008, c'est gagner en Coupe d'Italie, je pense que oui, elle peut arriver avec ce qu'est en train de faire la Roma américaine avec le travail de Monchi, qui, je dis, est très bon. Mais les paris, je ne gagne pas, et je pense que quand il parle de gagner, il ne parle pas de la Coupe d'Italie, mais parle du championnat. Je le vois vraiment trop grand pour le travail qu'il est en train de faire. C'est très simple. La Roma, ce soir encore, on l'a vu, il a besoin de temps pour s'adapter. On a vu un très beau match de l'Atalanta, deuxième période très réussie de la Roma, avec l'entrée d'Enzonzi, surtout, qui a donné un peu de stabilité au milieu de terrain et a libéré un peu plus Pastore dans son rôle de milieu de terrain. Mais si ce soir on peut trouver des épisodes négatifs ou des joueurs plutôt négatifs, sont Cristante et Pellegrini, les deux joueurs milieu de terrain jeunes et sur lesquels la Roma périt beaucoup, qui ont été sortis à la mi-temps par Di Francesco, deux joueurs que Di Francesco a voulu et des joueurs que, entre guillemets, ont contribué, ont donné une contribution avec leur arrivée la saison dernière et cette année au départ de Nainggolan et Strootman.
Mais quand tu dis c'est peut-être trop grand pour Monchi, c'est quoi l'objectif annoncé par Monchi en venant justement? C'est de faire mieux que la saison dernière en Ligue des Champions?
C'était déjà d'être le vrai gros rival de la Juve, déjà. Je peux gagner le titre, déjà.
Déjà, quand tu dis, si je gagne pas en deux ans, je pars, c'est-à-dire que t'as l'objectif de gagner. Je dis, la Ligue des Champions, je le vois pas qu'on aurait l'objectif.
C'est sûr.
La Coupe d'Italie, ça peut pas être en Coupe d'Italie que, va enrichir vraiment ton palmarès ou va réussir ton travail à la Roma en tant que dirigeant. Donc, l'objectif, c'est de gagner.
Bien
et
sûr.
Aujourd'hui, on voit, même si j'ai été très critique pendant l'été sur le mercato de Napoli, que la vraie plus-value de Napoli, c'est avoir pris Ancelotti, d'avoir gardé un groupe homogène, expert. Et ce soir, pour revenir à la Roma, quand Di Francesco dit nous a manqué des joueurs, nous a manqué d'attention et d'expérience, si tu vends tous tes joueurs plus expérimentés, comment on peut tout vouloir de l'expérience?
Mais ça, c'est
et c'est l'expérience qu'il faut pour gagner certains matchs et à la fin du championnat.
Si je te comprends bien, c'est-à-dire que tu penses que ce qui fonctionnait en Espagne ne peut pas forcément fonctionner en Italie. C'est possible d'ailleurs.
Séville jouait pas le titre.
Il a jamais joué les titres avec Séville. Il a gagné trois Ligue Europa, qui c'est des compétitions très importantes.
C'est pas mal,
deux fois, si je me trompe pas, en partant de la Ligue des Champions. Donc, comme objectif secondaire. Si en janvier la Roma est en Ligue Europa, moi je pense que la Roma peut aller au bout de la Ligue Europa. Aujourd'hui, elle est en Ligue des Champions et dans les objectifs de la saison, je vois pas la Ligue des Champions comme objectif possible. La saison dernière était déjà extraordinaire et peut-être au-delà.
Je pense qu'il voulait vraiment construire une équipe pour jouer le titre. Je sais pas après là maintenant, il y a que deux matchs de jouer.
Peut-être que je
m'étonne. Mais ça m'étonne, la Juve me semble avoir encore beaucoup d'avance.
Elle joue encore plus fort. Et Cristiano n'a pas encore pris vraiment n'a pas encore mis ses pieds comme il faut dans l'attaque de la Juve. Et Napoli, c'est beaucoup plus solide que je m'attendais.
Bah, tu sais quoi, demain tu seras là et demain on fera une passe justement sur le Napoli, sur la Juve et sur l'Inter aussi, hein, qui pour l'instant démarre mal sa saison.
L'Inter, je crois malheureusement
une défaite et un nul.
Que Nainggolan a trouvé l'adresse des boîtes de nuit à Milan, donc déjà pour ça c'est
pas tardé.
Déjà sur la Juve, une chose, dernière info de mercato, la plus importante de la soirée. Marco Borriello est signé en 3e division espagnole à Ibiza.
C'est vrai que faire des reportages
cette année, toute la saison.
Borriello, on est bien d'accord que c'est l'anecdote du contrôle antidopage qui était due à sa femme et au fameux produit.
Messieurs,
Simonet, j'ai passé 2-3 coups de fil. Les dirigeants sont OK pour une ligne de crédit pour les reportages, pour toi et moi.
Ah, c'est parfait. Salim Mangali sera avec nous dans quelques instants. On va filer en Angleterre. Pas du côté. On va filer en Angleterre. Pourquoi? Parce qu'ils sont passés des choses de dingue.
T'allais quand même pas dire du côté d'Angleterre.
Je déconne.
C'est pas si folichon, je trouve.
Je le savais que t'étais ça, toi aussi. Manchester United a perdu 3-0 à domicile ce soir face à Tottenham.
Et
Salim vient nous analyser tout ça dans quelques instants. À tout de suite. Toujours accompagné de Daniel Riolo, de Jonathan McCarty et des drôles de dames, à savoir Fred Hermel, à savoir David Ortolari, à savoir Simone Rovera. Et Salim Bongali nous a rejoint pour évoquer la Première Ligue. Salut Salim.
Good evening guys.
Waouh.
Wow.
En anglais Salim, attention.
Mais je le fais quand même, non? Vaut mieux, non?
Mais lui parle vraiment anglais, pour le coup.
Désolé, on parle du meilleur championnat du monde, donc vaut mieux parler anglais.
En plus, c'est vraiment fan de...
Excuse-moi, est-ce que t'as un t-shirt?
Il est Fred Hermel, alors, dans la
façon... Il est fan de West Ham.
Est-ce que t'as un t-shirt, la meilleure liga du monde?
Non,
parce que liga, ça...
Ouais, voilà. On l'utilise pas comme ça, effectivement.
Alors... Événement ce soir, et c'était d'ailleurs sur RMC Sport 1, défaite à domicile de Manchester United, 3-0 face à Tottenham. Petite stat qui est allée piocher d'ailleurs notre pote Alex Teixeira, c'est la plus lourde défaite à domicile en carrière pour José Mourinho, il avait jamais perdu par 3 buts d'écart. Et tiens, pour ceux qui sont branchés sur RMC Sport News, on a une image qui est dingue. C'est, vas-y, décris-la nous.
Ouais, en fait, donc le coup de sifflet est donné. Normalement, pour sortir du terrain, vous devez rester sur la ligne de touche, en fait, et aller directement vers le tunnel. José Mourinho fait pas du tout ça. Sur cette action, que va-t-il faire? Sous les yeux d'Ed Woodward, qui est l'un des dirigeants du board, qu'il déteste, et que José Mourinho déteste,
hein,
c'est vraiment la guerre entre les deux. José Mourinho va rester sur le terrain, il va saluer ses joueurs, il va saluer l'adversaire, il est très poli, et surtout, il va aller vers Stretford End, qui est l'une des tribunes fortes, on va dire, des supporters du United, et là, il va aller devant ce cop, il va applaudir devant ce cop. En gros, il est en termes de communication, hein, évidemment, puisqu'il voit les caméras autour de lui, donc il est là à applaudir ses supporters, et surtout...
Il va chercher le soutien du peuple.
Qui l'obtient, puisque ses supporters, tous ses supporters applaudissent et chantent « we love you José, on t'aime José, on t'aime José ».
Merci pour la trame.
Il est en mode méga gagnant là sur l'affaire.
J'adore.
Ils n'ont pas dit Berlin José. Il est exceptionnel. En fait, cette image, il reste sérieux, il va même chercher une écharpe et montrer cette écharpe rouge et noire.
On rappelle que Mourinho, c'est le genre de mec, une minute avant le coup de sifflet final, il rentre tout seul au vestiaire quand même. C'est-à-dire, il fait jamais ça. Il ne fait jamais ça.
C'est la première fois qu'on le voit faire ça. Alors, est-ce un adieu? Certains diront oui, d'autres non. En tout cas, en termes de com, il est parfait.
Alors, raconte-nous un peu cette défaite. Alors déjà, on attendait de savoir si Hugo Lloris allait être là et surtout capitaine, c'était le cas.
Ouais.
Après cette histoire de, il a été interpellé en état d'ébriété. Mm-hmm. Pogba était titulaire. Ouais. 3-0, c'est sévère ou pas?
Pogba, on peut dire quoi de son match?
Neutre. Très neutre, on ne peut pas dire autre chose.
Hein, carrément neutre,
dans ce match.
Oh là là.
Mais il faut dire une chose.
Pogba, tu es neutre.
Mourinho avait tenté un truc dans cette partie. Une défense à 3.
Combien il a changé de joueur par rapport au match avant? 6
joueurs.
À Brighton.
6 joueurs qui ont été changés par rapport à Brighton.
En gros, punition, je change,
ouais,
j'arrive.
Avec Bailly qui n'était même pas dans le groupe. Donc Martial qui n'était même pas dans le groupe. Apparemment, brouille entre Ed Woodward et donc José Mourinho. Woodward veut prolonger le français. On rappelle qu'il est en fin de contrat dans quelques mois, simplement Martial. Ouais. Et Mourinho, qui n'en peut plus de Woodward, veut absolument vendre Anthony Martial, donc c'est Martial qui en fait les frais. Il y avait 0-0 à la mi-temps, 3-0 au final, Kane qui marque, Lucas qui marque un doublé également.
L'ancien du PSG, hein.
Il a été
Lucas
énorme.
Moura, le même.
Il a été énorme. Il a été énorme. Et surtout, dans cette partie, il a tenté un truc. Il a fait une défense à 3, avec notamment Herrera, qui était défenseur central.
Oula, faut la chercher, ça,
exactement.
C'est vrai qu'il fait un 90,
défenseur central, avec Smalling et Jones. Alors, Herrera, il est même pas fautif dans cette partie. C'est Mourinho qui a tenté des trucs. En première période, ça a année bolant malant, Tottenham n'a pas eu d'occasion, mais en seconde période, United,
on roulait dessus.
Rien, vraiment, avec Lindelof qui est entré, qui a été affreux, enfin, rien n'a fonctionné du côté de United. Très
bon, ça sentait pas bon pour lui, là, il était déjà favori de la sac race, là, ça va pas être mieux.
Oui, mais forcément, il est favori aujourd'hui, et forcément, le prochain match face à Burnley, ce sera dimanche prochain, il va être encore plus observé. Après, Mourinho, là, il est dans une position assez intéressante, parce que depuis plusieurs semaines, pour pas dire plus même, il dit aux dirigeants, les gars, j'ai besoin de défenseurs centraux, vous me les donnez
pas. Le début du mercato, enfin même avant la préparation.
J'ai besoin de défenseurs centraux, les gars, donnez-les-moi. Les dirigeants ont dit non, on t'en donnera pas. Donc
on t'a filé Lindelof,
lui il efface ça. On dit Lindelof, Bailly, c'est très bien, mais moi j'avais besoin d'autres défenseurs centraux, vous me les avez pas donnés. Oui. Regardez ce qui se passe.
Permets-moi une question. Mourinho, les problèmes, tout ça, mais les joueurs, ils sont là, il a un effectif et les joueurs sont mauvais.
Oui.
Alors, est-ce qu'il y a rupture entre les joueurs et lui? Première question. Deuxième, eux aussi peuvent pas être exonérés de responsabilité,
totalement.
Ils sont quand même pas bons du tout, quoi. Donc, soit on constate qu'il y a rupture et dans ce cas-là, faut prendre une décision. Soit ils sont mauvais,
enfin, ils sont pas mauvais, mais
il y a quand même...
Ce qui est problématique dans l'affaire, c'est que la première période, United n'est pas ridicule. Tottenham n'a pas frappé, enfin, a cadré qu'une seule frappe à la 45e. United a des opportunités. Lukaku, qui rate un truc que même toi, Nicolas, t'aurais pu marquer.
Je suis sûr,
t'aurais pu le marquer.
Ça, dire, les
donc, il rate un truc de fou. S'il y a 1-0 au bout de 10 minutes, notre discours change forcément. Donc oui, déjà les joueurs sont en dessous, enfin l'ont pas lâché. Et puis en seconde période, il y a des joueurs quand même. Pogba, malheureusement, c'est un fait, il a été excellent lors du premier match face à Leicester contre Brighton, moyen. Aujourd'hui, plus que moyen pour pas dire autre chose. Lukaku, il a pas été servi. À ses côtés, Lingard, c'est le seul qui.
Après, on a quand même l'impression que le mal récurrent c'est la défense dans cette équipe. Alors Mourinho se plaint et s'est planté aussi, lui aussi dans son casting.
Lindelof, c'est lui qui l'a choisi.
Non, mais c'est ce que je te dis. Il s'est planté dans son casting.
Ils le prennent combien déjà?
Le paye 30, je crois, à l'époque, ou 40.
Oui, oui, Bailly était arrivé pour près de 40, et Lindelof pour plus de 30 de Benfica également. Donc oui, c'est des joueurs qui l'a voulu, qui sont arrivés pour donc très cher. Aujourd'hui, encore une fois, ce changement tactique, c'est lui qui l'a voulu avec ses joueurs, donc on l'a compris. Et au final, c'est un échec aussi personnel. Il a tenté un truc, ça n'a pas fonctionné. En plus, quand vous avez derrière maintenant David Herrera qui arrête plus un tir, c'est fini. Il arrête plus rien du tout depuis la Coupe du Monde.
Ah bon? C'est son frère. Enfin, ça m'étonne, ça. Bah, là, voilà. C'est vrai qu'à la Coupe du Monde, il était très fort, lui.
Ouais, c'est ça. Il est devenu catastrophique. Il arrête plus rien. Enfin, vous avez un gardien qui n'est plus là, des défenseurs qui sont plus là, des milieux de terrain qui sont à peine là, des attaquants Lukaku qui ne marquent plus. Ça devient méga inquiétant. Et Mourinho, le prochain match face à Burnley, s'il perd United, ben pourquoi pas le voir être viré avant la trêve.
Ah ouais, Burnley, ça la fout très mal. Alors même si ils sortent de deux belles saisons, hein, ils sont européens, etc. Mmh. Bah, ils ont un début de saison complexe quand même.
C'est ça.
Surnom de Burnley.
Ah, Burnley, je sais pas.
Les Clarets.
Ah bah écoute, je ne le savais pas. Je ne le savais pas.
Parce que tout à l'heure, ils voulaient me coller.
Je ne le savais pas. Ouais. Ah mais Burnley, non, ça j'avoue.
Et Brighton.
On l'a dit tout à l'heure. Les Seagulls.
Merci Salim. Le problème, c'est que je me souviens plus de la suite de la citation.
Comment tu dis le chalutier?
Les chalutiers, c'est
Boat, en l'occurrence.
Non, c'est pas Boat. Dans la citation, c'est pas ça.
C'est le chalutier, je crois.
Oui, il disait chalutier, mais je sais plus comment dire. Enfin, bref, peu importe.
Merci beaucoup, Simone Rovera. Merci, David Lortolari. Merci.
Comment ça, c'est fini?
Ah bah oui, regarde, il reste 20 secondes. Merci, Jonathan Lacardios.
Enfin, qu'on parle tourisme, ça va pas du tout.
Et si je te dis que j'ai passé une journée à Egin, ça te va quand même?
T'es parti où en vacances, toi, Salim?
Valencia.
Ah, ça a l'air très sympa.
Et c'est
très
Alors, est-ce que t'es allé au bar
J'ai adoré dans ça.
Bien mangé.
Ah, c'est une des que je préfère. Pas qu'un peu même. Je kiffe.
T'as resté combien de jours sur la même endroit? Non mais vous restez pas tout le temps au même endroit, c'est pas possible, vous bougez un peu. Non, mais
bon, c'est merci. Non,
c'est pas parce qu'il te vient dans un hôtel, Daniel, que pour nous c'est pareil.
Semaine ça, parce que dans
le sens, c'est le vélo, tu restes une semaine à Athènes sans bouger.